Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Dans notre cerveau composé d'archipels réside un îlot baptisé aire de Broca que l'histoire des neurosciences a décrit comme l'aire du langage. Derrière ce nom devenu commun, il y a l'histoire d'une découverte quasi fortuite réalisée en 1861 par Paul Broca à la suite de l'autopsie d'un patient qu'il ne venait pas consulter pour son cerveau. Science Chrono vous propose aujourd'hui de retracer cette épopée cérébrale qui n'a cessé de se complexifier avec le développement technique des neurosciences. Et bonjour Laurent Cohen.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes professeur de neurologie à la Pitié-Salpêtrière et chercheur à l'Institut du Cerveau. Je suis très heureux de vous recevoir pour parler de cette découverte qui figure tout de même en très bonne place dans le panthéon des neurosciences. Vous le savez désormais, chères auditrices et auditeurs, Science Chrono vous propose chaque samedi un voyage au présent dans le temps long de la recherche grâce à des archives sonores qui donnent lieu à une discussion avec notre invité. Alors si on devait s'en tenir aux seules archives sonores déjà enregistrées, on passerait à côté d'un pan immense de l'histoire des sciences, une histoire essentiellement inscrite et transmise dans des textes. On a donc décidé de vous tricoter nous-mêmes des lectures de ces textes clés, ou bien plus modestes, ce sera selon le cas, de l'histoire des sciences. Alors grâce au talent de réalisateur d'Olivier Bétard, on vous proposera à intervalles réguliers d'entendre ces archives silencieuses qui dorment sur le papier. Ce sera le cas aujourd'hui, et pour ouvrir cette discussion autour de l'ère de Broca, cette ère du langage dans notre cerveau, je vous propose d'entendre le discours prononcé par Paul Broca devant la Société d'anthropologie de Paris. C'était au cours de la séance du 18 avril 1861 et le texte est lu pour Science Chrono par Laurent Blanpin.
Lorsque le malade fut admis à Bicêtre, il y a 21 ans, il avait perdu depuis peu de temps l'usage de la parole. Il ne pouvait plus prononcer qu'une seule syllabe, qu'il répétait ordinairement deux fois de suite. Quelle que fût la question qu'on lui adressa, il répondait toujours « t'entends ». En y joignant des gestes expressifs très variés. C'est pourquoi, dans tout l'hospice, il n'était connu que sous le nom de Tan. À l'époque de son admission, Tan était parfaitement valide et intelligent. Au bout de 10 ans, il commença à perdre le mouvement du bras droit. Puis la paralysie gagna le membre inférieur du même côté. Si bien que depuis 6 à 7 ans, il a continuellement gardé le lit. Depuis quelque temps, on s'est aperçu que sa vue s'affaiblissait. Enfin, ceux qui étaient en rapport particulier avec lui avaient remarqué que son intelligence avait beaucoup baissé dans ces dernières années. Le malade est mort le 17 avril 1861. À l'autopsie, on a trouvé la dure mère épaissie et vascularisée, tapissée à sa face interne d'une épaisse couche pseudo-membraneuse, la pimaire épaissie, opaque et adhérente sur les lobes antérieurs, surtout sur le lobe gauche. Le lobe frontal de l'hémisphère gauche est ramolli dans la plus grande partie de son étendue. Les circonvolutions du lobule orbitaire, quoique atrophiées, ont conservé leur forme. La plupart des autres circonvolutions frontales sont entièrement détruites. Il est résulté de cette destruction de la substance cérébrale une grande cavité capable de loger un œuf de poule et remplie de sérosité. Le ramollissement a gagné en arrière le pli ascendant du lobe pariétal. En bas, le pli marginal du lobe temporosphénoïdal. Enfin, dans la profondeur, le lobule de l'insula et le noyau extraventriculaire du corps strié. C'est à la lésion de ce dernier organe qu'on doit attribuer la paralysie du mouvement des deux membres du côté droit. Mais il suffit de jeter un coup d'œil sur la pièce pour reconnaître que le foyer principal est le siège primitif du ramollissement est la partie moyenne du lobe frontal de l'hémisphère gauche. C'est là qu'on trouve les lésions les plus étendues, les plus avancées et les plus anciennes. Le ramollissement s'est ensuite propagé très lentement dans les parties environnantes. Et l'on peut considérer comme certain qu'il y a eu une très longue période pendant laquelle le mal n'occupait que les circonvolutions du lobe frontal. Cette période correspond probablement aux 11 années qui ont précédé la paralysie du bras droit et pendant lesquelles le malade, ayant conservé toute son intelligence, n'avait perdu que la parole. Tout permet donc de croire que, dans le cas actuel, la lésion du lobe frontal a été la cause de la perte de la parole.
Alors, on vous gâte pour cette première lecture, Laurent Cohen. C'est un texte assez technique. Les sciences, c'est aussi une certaine forme de littérature. On l'entend dans ce texte avec ces mots d'une complexité assez certaine. Vous allez bien sûr nous éclairer en partie sur ce texte-là. Peut-être qu'on peut, au-delà de l'aspect technique de ce discours de Paul Broca, situer l'importance du cadre dans lequel s'inscrit Broca d'un point de vue clinique, anatomo-clinique, de sa méthode de travail qui est transcrite dans ce texte.
Oui, c'est un exemple magnifique de ce qu'on a appelé la méthode anatomo-clinique. C'est la médecine moderne, en fait, qui s'est développée à la fin du XVIIIe siècle. Et l'idée générale est assez simple, c'est de se dire, j'observe un symptôme et je rattache ce symptôme à sa cause dans une lésion qui endommage un certain organe. Ça a l'air évident, mais c'était pas si évident auparavant. Et ce qu'on voit là, c'est un exemple de l'application de cette méthode anatomo-clinique à un cas assez particulier, dans la mesure où le symptôme lui-même concerne le fonctionnement intellectuel. C'est pas une paralysie, c'est pas le fait que la peau devient jaune, c'est le fait qu'il y a un aspect très particulier du fonctionnement mental qui ne marche plus, en l'occurrence la production de la parole.
On peut parler de ce patient, Louis-Victor Le Borgne, admis à Bicêtre, je crois qu'il avait 30 ans, il était fermier avant, il était épileptique depuis son enfance, et il a été admis à l'hôpital Bicêtre parce que il ne pouvait plus parler. Alors, est-ce que avant même de rentrer dans les raisons qui ont fait que Broca a rencontré Le Borgne, on peut décrire ce cas-là, dans quel cadre il évoluait à l'hôpital Bicêtre. Expliquez-nous ce cadre de soins-là aussi dans lequel il était.
Alors, je ne suis pas historien, mais Bicêtre avait une histoire très ancienne, de plusieurs siècles. Et ça avait été, dans le passé, à la fois une prison, jusqu'à quelques dizaines d'années avant l'époque dont on parle. Ça avait été un asile pour les pauvres, pour les malades, pour les dépendants, pour les fous, etc. Donc, c'était pas un endroit qui était un hôpital au sens moderne. Et d'ailleurs, Monsieur Le Borgne y avait vécu une grande partie de sa vie parce que il était handicapé.
Alors, qu'est-ce qui a fait que Paul Broca a été appelé au chevet de tantôt de ce Louis-Victor Le Borgne?
Alors, il y a deux choses. Il y a premièrement, pourquoi est-ce qu'il a fait sa connaissance? Et deuxièmement, pourquoi ça l'a intéressé, en fait? Alors, pourquoi ça l'a intéressé? C'est parce que, comme toutes les découvertes, finalement, ça ne se produit que dans un cerveau préparé et à un moment préparé. Et ce que Broca avait à l'esprit, une question ouverte, très explicitement, c'était la question de la spécialisation cérébrale.
Parce que Broca, il faut le rappeler quand même, était un biologiste, médecin, anatomiste de renom avant même...
Absolument, voilà. Oui, c'était un grand personnage de la médecine, en fait. Il était médecin extrêmement jeune, il a été très polyvalent, il a inventé des systèmes, des méthodes chirurgicales, il a découvert l'aspect microscopique des métastases des cancers, il a fait des choses naturellement concernant le cerveau, c'était également le fondateur de la société d'anthropologie, devant laquelle il a parlé dans le texte que vous avez lu. C'était quelqu'un dont les intérêts étaient très larges. Et notamment, cette question de la spécialisation cérébrale était dans l'air depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu un personnage qui restait dans l'histoire, qui s'appelait Franz Josef Gall. Et Gall était l'inventeur de la phrénologie. Et la phrénologie, c'était l'idée que chaque partie du cerveau remplit une certaine fonction. Même dans les fonctions intellectuelles, les maths, c'est de là que vient la bosse des maths. Parce que Gall, à l'époque, il n'y avait pas de scanner. Donc, si on voulait savoir ce qui se passait dans la tête, il fallait palper la surface du crâne. Et il avait l'idée que s'il y avait une partie du cerveau qui était particulièrement développée, et donc une faculté particulièrement développée, il y avait une petite bosse à la surface qu'on pourrait palper. Bon, c'est pas vrai. Mais l'idée théorique de Gall, c'était la spécialisation cérébrale. Et pendant les deux premiers tiers du 19e siècle, jusqu'à l'année 61 dont on parle, eh bien, il y a eu un grand débat. Est-ce que c'est vrai que les différentes parties du cerveau ont des fonctions différentes? Ou bien est-ce que tout le cerveau, c'est comme le foie? Si vous voulez, pour avoir un foie qui marche bien, il faut juste qu'il soit assez gros, mais toutes les parties du foie font la même chose. Et certains disaient, eh bien, le cerveau, c'est pareil. Pour avoir un cerveau qui marche bien, il faut avoir un cerveau assez gros. Et le cerveau, on dit, même certains, le cerveau fabrique la pensée comme le foie fabrique la bile. Et puis à l'autre extrême, il y a des gens qui, dans la postérité de Gall, eh bien disaient non, pas du tout. C'est une grosse machine formée de petites machines. Et chez tout le monde, l'avant gauche, l'arrière droit, etc. du cerveau remplissent des fonctions bien particulières. Et cette question, eh bien Broca l'avait à l'esprit parce qu'elle était discutée peu de temps avant à la Société d'anthropologie.
Alors, la phrénologie, la Société d'anthropologie, on ne peut pas les mentionner sans évoquer, bien sûr, le fait qu'à cette époque-là, si on s'intéresse aussi au cerveau, c'est pour valider d'une certaine façon certaines théories racistes. La phrénologie mesure la grandeur des crânes pour établir une hiérarchie entre, on va dire, les races. À l'époque, c'est comme ça dont on parlait de l'espèce humaine. Pour revenir à ce cas de Broca qui rend visite à Tantan, à Louis-Victor Le Borgne, il y va parce que ce patient est alité à une gangrène et en l'observant, répéter systématiquement cette même syllabe, il se dit, mais pourquoi, alors qu'il semble avoir toutes ses facultés intellectuelles, il reproduit tout le temps cette syllabe-là? C'est ça qui va le mener finalement à, après la mort de Tan, à disséquer son cerveau et à l'observer plus en détail.
Oui, exactement. Il avait cette question de spécialisation cérébrale dans l'arrière de la tête. On lui a présenté ce patient qui avait une infection très grave d'une jambe. Broca a dit tout de suite, il a examiné, il a dit, dans 3 jours, il sera mort, on peut plus rien y faire. Mais il s'est dit, voilà une occasion intéressante, parce que ce monsieur a perdu une partie bien particulière, bien limitée de ses facultés mentales, en l'occurrence, pas tout le langage, mais la capacité à produire de la parole. Et il s'est dit, il devrait avoir une lésion dans une partie bien particulière de son cerveau. Et depuis Galles, on pensait que les facultés les plus propres à l'homme, les plus spécifiques à l'homme, étaient dans l'avant du cerveau, dans les régions frontales, parce qu'elles sont derrière le front. Parce que si vous regardez un cerveau d'homme a une grosse région frontale.
Plus développée devant.
Absolument, c'est plus gros par rapport à un cerveau de chien ou de singe. Et donc, c'est là qu'on allait fourrer, théoriquement, les facultés les plus spécifiques à l'espèce humaine, dont la parole, évidemment.
Alors, quand il dissèque ce cerveau de Louis-Victor Le Borgne, Paul Broca fait une découverte assez saisissante. Qu'est-ce qu'il observe concrètement sur ce cerveau dont il rendait compte dans ce discours de façon très technique et qu'on peut peut-être, du coup, schématiser, résumer pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agissait?
Absolument. D'abord, il n'a pas disséqué, il n'a pas coupé en tranches ce cerveau. Il a juste regardé de l'extérieur et puis il l'a remis dans un bocal. Le texte montre bien que ce qu'il a observé, c'est une lésion très grande et très compliquée.
Un œuf de poule.
Voilà. Non, mais il a montré que non seulement il y avait ce trou de la taille d'un œuf de poule, mais au-delà de ce trou, la lésion s'étendait assez loin en arrière, assez loin en profondeur, etc. Mais il a simplifié les choses en disant ce qui est le plus abîmé, ce qui est abîmé le plus longtemps, et donc ce qui explique la perte de la parole, qui est un symptôme très ancien chez M. Le Borgne, eh bien, c'est ce qui a abîmé la troisième circonvolution frontale. Un endroit bien particulier, l'arrière de la troisième circonvolution frontale, que d'ailleurs, depuis, on appelle la région de Broca. Et donc, il a fait un lien entre la perte de cette faculté-là, la production de la parole, et cette région-là.
Pourquoi est-ce que cette proposition-là, qui n'est pas faite de façon spectaculaire, il n'est pas triomphaliste quand il fait cette proposition-là, mais pourquoi cette proposition-là est aussi capitale pour l'histoire des neurosciences entières?
C'est une des premières démonstrations rigoureuses, expérimentales, pour ainsi dire, d'un lien entre une fonction mentale et une région du cerveau. Et c'était une des premières, parce qu'il y en a eu plein. Après, là, on est en 1861, et dans les années 1870, 1880, etc., et en réalité jusque dans le XXe siècle, eh bien, on a continué à découvrir, à observer des patients qui perdaient une faculté bien particulière, après une lésion bien particulière elle aussi. Par exemple, vers la même époque, on a montré que vous pouvez, dans la moitié de votre champ visuel, commencer à voir en noir et blanc. Alors que dans l'autre moitié des champs visuels, vous continuez à voir en couleur. Après, une lésion dans une région bien précise, que maintenant on appelle V4, etc., etc. Et que cette fragmentation du fonctionnement mental est un principe très général. Et donc, ça a été une des découvertes fondamentales initiales de soutenant cette idée de spécialisation cérébrale.
Est-ce qu'il y a eu des récalcitrants à ce genre de proposition-là? Est-ce que ça a fait débat? Est-ce que des opposants disaient « touche pas à l'unité et l'unicité du cerveau »
Il y a eu encore des débats, mais je dois dire qu'à partir de cette époque, les débats ont diminué. Il y a eu une sorte de victoire, objectivement, disons, de la notion de spécialisation cérébrale. Mais c'est un débat dont on retrouve des filets, jusqu'à présent, en fait, si on cherche bien.
France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp.
On poursuit ce Science Chrono dédié à la découverte de l'ère du langage par Broca, sa réception et sa postérité. Alors, on parlait de cette réception qui a été immédiatement suivie de travaux qui étaient dans la droite lignée des travaux de Broca, Laurent Cohen. Est-ce que on pourrait évoquer l'un de ses continuateurs les plus célèbres, Wernicke, Karl Wernicke, un Allemand qui, lui, a complexifié cette compréhension de la production du langage articulé par un cerveau humain?
Oui, quelques années après Broca, il y a eu des publications, elles aussi, qui entrent dans l'histoire sainte de la spécialisation cérébrale, qui est une publication par Karl Wernicke, qui a montré que chez des patients, eux aussi avec des problèmes de langage qu'on appelle maintenant aphasiques, eh bien, on pouvait avoir des problèmes différents de ceux de Monsieur Le Borgne, avec des lésions différentes de celles de Monsieur Le Borgne. Donc, on s'est aperçu, là encore expérimentalement, du fait que le langage était une chose très compliquée en deux sens. D'une part, le langage n'est pas tout ou rien, ce n'est pas une faculté, mais c'est la combinaison de sous-facultés, comme par exemple produire de la parole, faire de la grammaire, comprendre les mots, percevoir les sons, etc., etc. Et que cette multiplicité de parties du langage repose sur une multiplicité de régions cérébrales, parce que les patients qui ont une aphasie de Wernicke, comme on appelle ça, eh bien, ont des problèmes de compréhension et pas du tout des problèmes de production de parole comme Monsieur Le Borgne. Et les lésions, selon Wernicke, se trouvent plutôt non pas dans le lobe frontal gauche, mais dans le lobe temporal gauche.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on poursuit cette histoire de la compréhension des fonctions cérébrales, on peut comprendre différents types d'affections. Là, vous parliez de l'aphémie, alors l'aphasie de Broca que lui appelait aphémie, une aphasie qui complique la production du langage. L'aphasie de Wernicke, elle, ce sont des patients qui, concrètement, produisent un langage en croyant prononcer les bons mots, mais produisent un discours assez décousu.
Oui, c'est ça. Disons, l'aphasie de Wernicke, de façon un peu caricaturale, c'est des gens qui ont des gros problèmes pour comprendre et qui produisent un langage très endommagé. Ils parlent beaucoup, mais les mots sont transformés. Parfois, c'est un véritable jargon où on ne peut plus rien comprendre.
Alors, on poursuit dans cette histoire des travaux de Broca. Moi, une question que je me suis posée en préparant cette émission, c'est est-ce que ces travaux sur les fonctions cérébrales ont été centraux dans tout le parcours scientifique de Broca, ou bien est-ce que, finalement, c'était un type de travaux parmi d'autres?
C'était un genre de travaux parmi d'autres, mais qui probablement avait pour lui une grande importance, parce que ça faisait le lien entre son approche médicale de l'être humain et ce qu'on appelait son approche anthropologique de l'être humain. C'est-à-dire qu'au-delà de la médecine, il avait un questionnement sur qu'est-ce qu'une bonne approche scientifique, ce qu'on appelait anthropologique, de ce que c'est qu'un être humain. Et c'est effectivement dans le cadre de ses travaux anthropologiques, comme vous le disiez, qu'il a mesuré la capacité, le volume de crâne humain et défendu des théories dont on sait maintenant qu'elles sont fausses sur les différences de volume entre ce qu'on appelait des races humaines, etc.
Alors, poursuivons cette discussion. Moi, ce que j'aimerais ensuite comprendre, c'est comment est-ce que, à partir de ces travaux de Broca, de Wernicke, s'établit une nouvelle compréhension du cerveau et comment certains savants, comme Charcot par exemple, vont essayer d'établir maintenant une vision connexionniste du cerveau. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'assez moderne finalement dans l'histoire des sciences. Qu'est-ce que ça a apporté, ce genre de vision-là?
Dans le principe, c'est pas si moderne. C'est-à-dire que dans ce qu'écrivait Gall, donc en 1800, disons, eh bien, effectivement, il y avait une fonction par région. Bon. Mais dès la période de Wernicke, par exemple, dès la fin du 19e siècle, c'était parfaitement clair que quelque chose d'aussi compliqué que le langage ne reposait pas sur une région, mais sur de nombreuses régions connectées entre elles. C'est-à-dire que, comme on le conçoit toujours maintenant, dès que vous faites quelque chose, quoi que ce soit, si vous donnez le nom de l'objet qui est devant vous, si vous bougez les yeux, etc., c'est jamais une région qui travaille tout seul. C'est toujours un réseau de régions cérébrales multiples connectées entre elles qui collaborent.
Tout ça à l'époque même où on n'avait pas encore développé la théorie neuronale, où on comprenait pas encore bien le fonctionnement.
Non, mais on commençait à comprendre l'architecture générale. C'était aussi un moment où il y a eu des découvertes anatomiques. On a découvert l'anatomie des faisceaux de substances blanches, c'est-à-dire le câblage qui relie entre elles différentes régions cérébrales.
Alors, ce qui est intéressant, et c'est un peu un hasard de l'histoire des sciences, c'est que le terme neuroscience n'apparaît aux États-Unis que dans les années 1960, soit un siècle après cette proposition de Broca devant la Société d'anthropologie de Paris, qu'on a entendu tout à l'heure au début de l'émission. Et j'aimerais comprendre Voilà, à partir de ce développement et de ce boom des neurosciences avec le développement de l'imagerie cérébrale, etc., comment on s'est penché sur cette question du langage articulé? Comment est-ce qu'on a approfondi ces connaissances développées par Broca? Et si on les a approfondies, qu'est-ce qu'on a trouvé de plus? Ou bien, quelles questions de plus ça nous a posées?
Alors, c'est une question gigantesque, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu deux genres de grands progrès depuis l'époque. Le premier progrès, c'est le progrès de la compréhension théorique, si vous voulez, de ce que c'est que le langage. On a dit, le langage, bah, il faut comprendre, il faut produire des mots. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, parce que comment vous faites pour produire un mot? Bah, il faut d'abord le choisir dans votre tête parmi les dizaines de milliers de mots que vous connaissez, il faut récupérer dans votre mémoire la prononciation, il faut programmer vos articulateurs, etc. Comment vous faites pour comprendre une phrase? Il faut faire de la grammaire, savoir ce qui est le sujet, le verbe, le complément, en plus de comprendre chacun des mots. Il faut, à partir de la grammaire, accéder aux... Oh, c'est très compliqué. Et donc, la linguistique, et puis la psycholinguistique, qui étudie par le comportement des gens, la manière dont la linguistique marche, si je puis dire, ont permis de décortiquer le fonctionnement du langage. Ça, c'est la première chose. Donc, localiser des fonctions, certes, mais il faut d'abord décortiquer les fonctions elles-mêmes. Et puis, d'un autre côté, des progrès techniques dans l'analyse de l'anatomie et du fonctionnement du cerveau. Par exemple, ce qu'on appelle la région de Broca. Eh bien, en réalité, maintenant, en continuant à faire de l'anatomie, c'est-à-dire à découper en tranches des cerveaux, eh bien, on continue à faire des progrès. Et maintenant, la région de Broca, eh bien, on sait que c'est au minimum composé d'une douzaine de régions différentes, compactement collées les unes près des autres. Et donc, vous voyez que, avec une anatomie aussi compliquée, on peut s'attendre qu'à des fonctions très compliquées. Il y a les progrès de l'anatomie, il y a aussi les progrès de l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire on peut voir maintenant en action s'activer telle ou telle région du cerveau pendant que vous êtes en train de faire quelque chose assis dans la machine.
160 ans après ce discours de Broca, est-ce que on peut le dire, vous parliez de l'étude des fonctions de ces douzaines de structures qui composent l'aire de Broca, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui l'aire de Broca a telle fonction ou bien toujours pas?
Non. C'est-à-dire que je pourrais vous donner 15 réponses. Autrement dit, je pourrais pas vous donner une réponse exacte.
Alors, si on en donne quelques-unes.
Mais voilà, ça joue un rôle dans le langage, ça joue probablement un rôle pour trouver les mots quand on cherche un mot qui a un certain sens, ça sert probablement à programmer l'articulation de la parole, ça sert probablement à pas mal d'autres choses, et ça sert aussi sans doute à des choses qui sortent du langage et qui ont à voir avec le contrôle des actions.
Qu'est-ce qu'on peut dire alors de cette complexification croissante de la compréhension du cerveau? J'ai l'impression que plus on a des moyens de le connaître et plus il s'éloigne, ce continent.
C'est-à-dire que on perd un peu nos illusions. C'est ça l'éloignement dont vous parlez. On perd peut-être nos illusions d'avoir tout compris, ça c'est sûr. Mais en même temps, on comprend mieux. Voilà. Donc, on voit qu'il y a beaucoup à comprendre, mais on comprend mieux. Par exemple, l'exemple de la spécialisation cérébrale. Le fait que des régions spéciales jouent des rôles différents. Eh bien, c'est encore d'actualité. Il y a quelques semaines, avec des collaborateurs, on a publié un article qui montre qu'il y a des toutes petites régions de la taille de quelques millimètres qui, chez des gens qui sont bilingues anglais-chinois, des toutes petites régions qui sont spécialisées pour la reconnaissance des caractères chinois et pas des caractères anglais.
Comment on l'identifie ça?
Ah ben, on l'identifie grâce à des progrès techniques de l'IRM fonctionnel, par exemple, qui permet d'avoir une finesse d'imagerie de plus en plus grande.
C'est-à-dire que sur l'image, en mettant certains révélateurs phosphorescents, par exemple, on va pouvoir avoir accès...
Non, pas phosphorescent, c'est totalement anodin l'IRM, c'est-à-dire qu'on ne vous met aucun produit nulle part. On vous met dans une machine et on vous fait, par exemple, voir des mots écrits. L'IRM permet de voir quelles sont les régions dont l'activité augmente, diminue, selon ce que vous voyez.
Donc une petite courbe d'activité électrique.
Ah, c'est pas de l'activité électrique non plus. Voilà. Il y a plein de méthodes, il y a d'autres méthodes qui utilisent l'électricité. Voilà, donc tout ça, ça bouge. Autrement dit, même si le principe général de spécialisation mis en évidence par Broca reste tout à fait d'actualité, eh bien, on approche le degré de complexité de cette spécialisation, mais on a des moyens de meilleur en meilleur pour le comprendre.
Et ce qui est intéressant, c'est que Broca, pour reboucler avec lui, avait cette idée de l'imagerie et de la mesure. Alors, à quoi ressemblait son outil?
Ah oui, c'est très marrant parce que il a inventé une couronne thermométrique. Alors, une couronne thermométrique, c'est un morceau de tissu élastique qu'on met autour de la tête de quelqu'un. Et dans cette bande de tissu, il y a des petites poches. Et dans chaque petite poche, on met un petit thermomètre. Autrement dit, on peut mesurer à chaque moment la température de la peau. Alors, c'est pas le cerveau, mais bon, la température de la peau tout autour de la tête. Et il a observé deux choses. Il observe une première chose, c'est que chez certains patients avec d'énormes lésions cérébrales, eh bien, il y avait des changements de température en regard de cette lésion. Ce qui est un peu une manière de faire une espèce de scanner avant la lettre, dire, ben voilà, j'ai une information sur ce qui se passe à l'intérieur en observant ce qui se passe à l'extérieur. C'est une histoire de yaourt, tu crois. Et deuxièmement, il a essayé d'utiliser ce système pour faire de l'imagerie chez des gens bien portants. Il a demandé, par exemple, à des étudiants en médecine de faire d'énormes additions de 35 chiffres. Et pendant ce temps, ils avaient leur thermomètre sur la tête et Broca prétend qu'il a mesuré une petite augmentation dans la région frontale de la température pendant qu'il faisait cet effort. Alors, je ne pense pas que ça reflète une augmentation de la température du cerveau, mais plutôt la transpiration des étudiants. Mais il a essayé. Il a essayé.
Laurent Cohen, aujourd'hui, Broca, s'il était à l'Institut du cerveau où vous travaillez et que vous lui faisiez visiter vos locaux, vous pensez que vous auriez quels échanges et qu'est-ce qui, lui, l'intéresserait
Je suis sûr qu'il serait extrêmement content, pas tellement surpris, parce que c'est un homme d'avenir, et qu'il commencerait tout de suite à poser des questions, à proposer des réponses, etc. Ce serait certainement un excellent collaborateur.
Merci beaucoup, Laurent Cohen, en tout cas, de nous avoir éclairé sur cette histoire de la compréhension complexe de notre cerveau et de ses fonctions. Insane in the Brain, c'est le morceau de Cypress Hill qui met notre cerveau en feu. Science Chrono, c'est déjà fini. Un grand merci à Mariam Ibrahim et à la réalisation Olivier Bétard pour leur aide dans la préparation de cette émission. À la technique, aujourd'hui, c'était Alex Dang. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.
right, son, you know who it is. The great Bobby Bobby. Cause I'm right inside your sector. Blasting off right now. Doing my thing, son. Hey, yo. Bring that back. Bring that back.